Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir Arnaud Laporte, bonsoir à toutes et à tous. Noël a eu une saveur particulière pour les utilisateurs de streaming, rapporte Sarah Belouézane dans Le Monde. Mercredi 23 décembre, ils ont appris l'arrivée du catalogue entier des Beatles sur leur plateforme d'écoute musicale en ligne. Le 24 décembre à 0h01, les fans du groupe de Liverpool ont eu accès aux 13 albums studio remasterisés de la formation de John Lennon et Paul McCartney, ainsi qu'à 4 compilations. La nouvelle a son importance. Les Beatles étaient le dernier groupe de cette envergure à être absent des services de streaming. Il était certes possible d'écouter quelques-uns de leurs titres au gré des sorties de compilations rock et autres patchwork inventés par les maisons de disques. Quelques 1,1 million de personnes suivaient même leur page officielle sur Spotify, mais impossible de choisir le titre ou l'album à écouter. Preuve que les quatre garçons de Liverpool étaient presque les derniers, même le groupe australo-britannique AC/DC, qui s'y refusait depuis des années et qui n'a intégré iTunes, la plateforme de téléchargement en ligne d'Apple, qu'en 2012, a mis à disposition son catalogue en streaming en juin. L'arrivée de ces deux mastodontes la même année envoie un signal clair. Le streaming est devenu un mode de consommation de la musique avec lequel il faut composer. Il sera peut-être même bientôt, selon certains observateurs, le seul mode d'écoute de musique. N'en déplaise aux derniers résistants, comme le groupe de rock Radiohead ou la chanteuse pop Taylor Swift, qui refusent de mettre à disposition leurs albums les plus récents sur la totalité des plateformes. Pour les observateurs, la chose est entendue, l'arrivée des Beatles risque d'accroître la pression sur les quelques artistes qui résistent encore à la révolution en marche, insiste Simon Dyson du cabinet d'analyse Ovum. Reste à savoir combien de temps mettront les récalcitrants à céder. Eh bien, un certain temps encore. On pensait les relations entre les artistes et le service de streaming musical Spotify un peu apaisées depuis l'arrivée des Beatles sur la plateforme. Il n'en est rien, constate quelques jours plus tard la même Sarah Belouézane dans Le Monde. Le géant suédois de la musique dématérialisée est de nouveau aux prises avec une musicienne qui lui réclame 200 millions de dollars. Melissa Ferrick, chanteuse estampillée indie folk, a déposé le 8 janvier une plainte contre le service au tribunal de Los Angeles. Objet du litige, une utilisation sans autorisation de sa musique par Spotify. L'artiste de 45 ans a certes été rémunéré lorsque ses morceaux ont été écoutés par les internautes, mais elle affirme que personne ne lui a demandé son avis avant de les mettre en ligne. Melissa Ferrick, qui a connu une gloire éphémère dans les années 1990 et enseigne aujourd'hui au prestigieux Berklee College of Music, affirme que ses morceaux ont été écoutés plus d'un million de fois ces trois dernières années. Pour l'artiste, le service de streaming utilise une stratégie désormais courante chez nombre de services de musique en ligne, violer les droits d'auteur maintenant et s'excuser plus tard. Melissa Ferrick, comme avant Radiohead ou Taylor Swift, leur reproche tous la même chose, une gestion opaque des droits d'auteur et un système infiniment moins rémunérateur que l'achat de musique dématérialisée en ligne. Et pourtant, la montée du streaming est bonne pour les artistes, assure Pascal Nègre, le PDG d'Universal Music France, cité par Nicolas Madeleine dans Les Écho. 1000 streams génèrent aujourd'hui pour l'artiste le même revenu que la vente d'un album. Le rappeur Nekfeu a ainsi généré en streaming l'équivalent de la vente de 200 000 albums contre plus de 100 000 physiques vendus, a-t-il dit. En parlant de rappeur, on avait oublié, a écrit Guillaume Gendron dans Libération, cette absurde histoire d'album secret du Wu-Tang Clan, Once Upon a Time in Shaolin, soi-disant enfermé dans un coffre-fort au fin fond des montagnes de l'Atlas et à la porte du plus offrant, moyennant quelques millions de dollars. Et puis Reza, tête pensante du collectif de rap new-yorkais, a annoncé que l'opus inédit du groupe était vendu. Sur la toile, les conjectures allaient bon train autour du nom du mystérieux collectionneur. Une piste sortait du lot. Le seul imbécile capable d'investir autant d'argent pour écouter un album du Wu-Tang Clan ne pouvait être que Quentin Tarantino. Eh bien non, selon Bloomberg, l'heureux acquéreur de l'opus, qui s'engage à ne pas en diffuser une note publiquement pour les 88 prochaines années, et Martin Shkreli, ce gestionnaire de hedge fund de 32 ans, fan de jeux vidéo et collectionneur de vinyle, est accessoirement l'un des patrons les plus détestés et détestables des États-Unis. Le bonhomme doit sa notoriété à sa décision d'augmenter le prix du Daraprime, un médicament utilisé depuis 6 décennies pour traiter les malades du VIH et les immunodéficients. Martin Shkreli a décidé début août, juste après le rachat du médicament par sa start-up spécialisée dans la spéculation pharmaceutique, de vendre la tablette de Daraprim $750 contre $13,5 auparavant, une augmentation de 5000% prohibitive pour la majorité des patients et des hôpitaux. Cette décision avait été critiquée par les candidats à la présidentielle américaine Hillary Clinton, Bernie Sanders et Donald Trump. Shkreli avait réagi en déclarant qu'il aurait dû vendre le Daraprim encore plus cher. Face à la controverse naissante, Reza a expliqué qu'au moment de la vente de l'album durant l'été, il n'avait aucune connaissance des pratiques de Shkreli. L'heureux acquéreur avait commenté son acquisition sur Twitter, espérant qu'elle lui donnerait l'opportunité de fréquenter des célébrités et des rappeurs qui auraient envie d'écouter l'album. Il est plutôt parti pour en faire bénéficier ses compagnons de cellule, puisque l'homme le plus détesté des États-Unis a depuis été arrêté pour fraude par le FBI dans une autre affaire. Au grand dam des fans de Wu-Tang Clan, commentent les échos, le FBI n'a toutefois pas saisi l'album lors de son arrestation. Mais que fait la police ?